RFI. Le Monde à midi.
Bonjour Amande Bazerolle.
Oui, bonjour.
Vous êtes coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza. On va parler avec vous du retour de centaines de milliers de personnes dans le nord du territoire à la faveur de l'accord trouvé entre le Hamas et Israël. Ces images qui ont fait le tour du monde, une foule massée sur une route et des cris de joie malgré un paysage en ruine, dévasté par 15 mois de bombardements israéliens. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de Gazaville et du nord du territoire ?
Alors du nord du territoire, ça je pense qu'on a tous vu les images, il ne reste quasiment rien. Aujourd'hui, ça fait 3 jours que nous y allons pour faire de la distribution d'eau. Les gens essayent de s'installer dans ce qui reste, avec effectivement le risque également, le fait de n'avoir accès à rien, qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'infrastructure, qu'il n'y ait rien, mais qu'en plus il y ait des munitions non explosées qui sont effectivement un très grand risque. Gaza City a été largement bombardé, mais il reste quand même des endroits où il reste des bâtiments. Donc il y a des gens qui arrivent et qui vont pouvoir enfin se réinstaller dans des bâtiments existants.
C'est même ce que si, j'allais vous demander sur les 300 000 personnes environ dont on dit qu'elles sont revenues. Est-ce qu'on a une idée de combien pourront vivre dans une structure en dur avec un toit ?
Alors, on n'a pas les chiffres exactement, mais évidemment beaucoup moins que ça ne l'était à l'époque, même si ils vont cohabiter avec des familles agrandies. Donc il y a effectivement pas mal de gens qui vont pouvoir avoir cette possibilité, mais les gens veulent retourner de toute façon sur leur terre. Donc a priori, une grande majorité des gens vont retourner dans le gouvernorat du Nord, en fait. Et donc là, il faut pouvoir planifier des tentes, de quoi les installer, parce qu'aujourd'hui, effectivement, là-bas, il n'y a absolument rien pour les accueillir.
Est-ce qu'aujourd'hui ces tentes sont disponibles et est-ce que ça constitue un abri suffisant ?
Alors, ça n'est jamais suffisant et ça n'était déjà pas suffisant à l'époque parce que ces gens, pour une grande majorité, étaient déjà sous tente dans le sud de la bande de Gaza. Donc, ces tentes sont en train d'arriver. Il va sûrement falloir augmenter le nombre car aujourd'hui, en se déplaçant, leurs abris de fortune, parce que tous n'avaient pas des tentes, ont été partiellement abîmés, détruits et de toute façon, l'été, à cause du soleil, est déjà un an à vivre dehors. Donc, effectivement, il va falloir pouvoir envoyer beaucoup plus de matériel pour pouvoir organiser et essayer d'avoir des camps un peu plus organisés que ça n'avait été à l'époque sous les bombardements où c'était évidemment très très difficile non seulement de trouver de l'espace ici à Gaza et de pouvoir organiser dans ces conditions.
Est-ce que les personnes qui reviennent aujourd'hui en famille ou pas encore et on voit surtout des adultes ou des hommes qui viennent pour installer avant de faire venir le reste de la famille ?
Exactement. Il y a un peu de tout en fonction de la situation qu'ils vont trouver sur place. Soit ils ont encore un logement qui est peut-être pas complètement existant, abîmé, mais qu'ils vont essayer de remettre en état pour pouvoir accueillir les familles. Il y a ceux qui sont partis donc avec leur famille dans ces cas-là pour pouvoir réintégrer leur maison ou leur appartement. Et il y a tous ceux qui y vont pour effectivement faire un peu l'éclaireur et savoir comment ils vont pouvoir s'organiser, s'installer, où est-ce que ça va pouvoir être et revenir chercher après leur famille. Mais on voit bien aujourd'hui, donc c'était 300 000 hier et on s'attend à peu près à la même chose aujourd'hui ou dans les jours à venir de personnes qui remonteraient vers le nord.
Avec un certain nombre de difficultés, vous avez évoqué rapidement tout à l'heure le problème de l'eau. Un certain nombre d'infrastructures qui permettaient de bénéficier de l'eau potable sont détruites. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme moyen disponible pour trouver de l'eau ?
Eh bien, comme dans le sud, en fait, aujourd'hui, ça va être d'organiser des distributions avec des camions-citernes, ce qui était déjà le cas ici. Il y avait quelques petites unités de désalinisation qui étaient en place, mais effectivement, là, les grandes infrastructures ont été en très grande majorité détruites. Donc, il va falloir essayer de les remettre en place. Donc, aujourd'hui, personne n'a de l'eau de ville, soyons clairs. Et donc, tout le monde doit faire la queue avec des bidons pour aller avec des points de distribution qui sont organisés en coordination entre les différentes organisations pour pouvoir rejoindre les populations. Et donc là, il nous faut pouvoir identifier les points où les gens vont s'installer pour pouvoir adapter le volume d'eau que l'on doit envoyer dans ces endroits-là.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a suffisamment pour les personnes qui sont sur place, là, tout de suite ?
Il y en avait déjà pas suffisamment au sud. On était entre 6 et 8 litres d'eau potable par personne, qui n'est même pas un standard minimum, parce que la capacité de production à Gaza a été extrêmement endommagée. Et donc là, au nord, non. Aujourd'hui, il n'y a pas la capacité encore à ce jour. Et ça va se mettre en place au fur et à mesure, mais ça restera des ratios qui sont très en deçà des vrais besoins d'une population Ça n'est même pas dans les critères d'urgence aujourd'hui.
Il y a aussi la question des soins sur place, puisque la guerre, les bombardements israéliens ont détruit des centres d'hôpitaux, des centres de santé, pardon, et des hôpitaux ces derniers mois et cette dernière année. Est-ce qu'il reste sur place, dans le nord du territoire, des infrastructures de santé?
Alors, on en a beaucoup parlé, pareil, pour celles du nord de Gaza, du gouvernorat du nord, qui ont été extrêmement endommagées au cours de ces 3 derniers mois. Il reste donc certains qui sont partiellement utilisables. Donc, on peut avoir peut-être un bâtiment encore qu'il va falloir réhabiliter pour pouvoir les faire fonctionner, mais pas la capacité totale. Aujourd'hui, on risque de se retrouver avec une population qui est toute retournée au nord, mais sans les structures que nous avions tous mises en place dans le sud. Donc, il va falloir redéployer les hôpitaux de campagne et donc les faire entrer, ce qui prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on espère que ça prendra moins de temps qu'à l'époque avec l'ouverture de la vanne d'approvisionnement, mais ça prend quand même le temps d'amonter un hôpital, de le faire rentrer, ça prend entre 2 et 3 mois. Donc pendant cette période-là, il va falloir essayer de faire des cliniques mobiles et on espère, si le cessez-le-feu continue, continuer à référer des patients là où nous sommes aujourd'hui dans le sud, dans les hôpitaux de campagne qui sont déjà existants.
À ce sujet, 26 ONG ont dénoncé hier des entraves israéliennes à l'arrivée ou à la distribution d'aide humanitaire. Est-ce que c'est le cas aussi de votre organisation ?
Alors aujourd'hui, les entraves, elles existent toujours. Donc le volume peut rentrer, mais il y a toujours du matériel qui est interdit de rentrer à Gaza par les autorités israéliennes. On parle pour nous, par exemple, de scalpels, d'autoclaves, donc de matériel pour stériliser les instruments, de tables d'opération et des prothèses pour les patients ou des simples béquilles qu'on a été obligé d'essayer de faire localement sur place pour subvenir aux besoins d'une population. Comme vous le savez, il y a eu plus de 110 000 personnes qui ont été blessées dues à des bombardements israéliens et qui sont essentiellement en besoin de ces béquilles et de ces prothèses.
Toujours à propos de cette aide humanitaire, il y a ce qui entre dans le territoire de Gaza et puis après il faut l'acheminer jusqu'aux personnes qui en ont besoin. On sait que des routes aussi ont été détruites. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible pour votre organisation et pour d'autres ONG de faire parvenir l'aide humanitaire jusque dans le nord du territoire ?
Alors aujourd'hui, les points donc depuis les accords de trêve, effectivement, on a enfin pu faire entrer de l'aide humanitaire en quantité toujours pas suffisante vu le retard qu'on avait pris depuis 15 mois. Donc les besoins sont immenses. Aujourd'hui, les points d'entrée qui n'étaient pas ouverts auparavant en quantité suffisante ont été ouverts. Donc aujourd'hui, il y a 2 points au nord et des points au sud. Donc au nord, on peut faire entrer directement de l'aide humanitaire au nord aujourd'hui. Donc, ce qui aurait dû être le cas depuis le début de la guerre et qui n'a été accordé que maintenant. Donc, c'est accessible vers le nord, effectivement, avec des très grandes discussions. Et nos partenaires des Nations Unies essayent de préparer les routes pour pouvoir aider à cet acheminement.
Vous nous avez parlé de la nécessité d'augmenter cette aide humanitaire. C'est aussi ce que disent les Nations Unies. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus importante ? Est-ce que c'est par manque de financement ou justement à cause d'entraves qu'on avait pu observer jusqu'à très récemment ?
Effectivement, beaucoup d'entraves jusqu'à présent où c'était vraiment très peu de camions qui étaient dus à un système mis en place par les Israéliens qui ne permettait pas de faire rentrer assez d'aide. Et donc, il y avait un énorme goulot d'étrangement qui ne permettait pas de rentrer. Et donc, aujourd'hui, tout n'était pas forcément prépositionné ici. Donc, c'est en cours d'acheminement depuis les centres opérationnels des différentes organisations. Donc, tout ce qui était déjà prépositionné a pu rentrer et il faut faire continuer à rentrer l'aide. Après, les financements, effectivement, sur du long terme, vont rester un vrai problème. On sait que les États-Unis vont geler leur financement. Donc, tout ça va se poser. Et également, le problème de l'UNRWA qui a été banni par les Israéliens et qui était un très, très grand pourvoyeur d'aide dans la bande de Gaza.
Merci beaucoup, Amande Bazerolle, d'avoir été en ligne avec nous, coordinatrice d'urgence de Médecins sans frontières à Gaza. Cet entretien sera disponible comme tous les autres et comme toutes nos informations sur notre application RFI Pure Radio ou bien sur notre site internet rfi.fr.